Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Un jour, par la grâce de Dieu, tout jeune encore, c'est ça. C'est vrai, je me sens jeune, puis je remercie le Seigneur pour ça. Super. Bien, frères et sœurs, regarde, lisons la parole de Dieu. Hein. C'est ça, le titre ici, peut-être, là, de la semaine passée, on va poursuivre un peu dans Hébreu. On n'a pas eu le temps un peu, peut-être, de vous demander, c'est un drôle de titre un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir un peu le mettre dans le contexte de ce qu'on va voir. Alors, comme on dit, bien, titre, c'est toujours intéressant parce que ça capte notre attention. Hein. On se demande un peu qu'est-ce que c'est. Donc, on va y venir. Cependant, comme je dis, bien, lisons la parole de Dieu ensemble, frères et sœurs. Donc, Hébreux 12 à 1, 12 plutôt, chapitre 1, verset 12, verset, chapitre 12, verset 1 à 3. On va prendre notre temps. Ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragé. Prions. Hein, Seigneur, merci pour ces versets, merci pour ces témoins que tu dis que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Merci pour ces gens de l'Ancien Testament, Seigneur. Ces gens qui ont couru avec persévérance, qui ont combattu le bon combat, comme l'apôtre Paul le dit si bien à la fin de sa vie. Il a achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Seigneur, ce sont des modèles de gens. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là. Et Seigneur, bien ça, ça nous fait du bien parce qu'on ne doit pas les considérer comme parfaits. Oui, ils étaient parfaits sous ton regard, Seigneur. Tout comme nous, nous sommes parfaits, ceux qui t'appartenons, à cause de Jésus-Christ. Mais en même temps, bien Seigneur, tu veux nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ce matin, bien, on veut te bénir pour ça. On veut élever ton nom. Et Seigneur, oui, merci pour ces gens qui sont des modèles, qui sont des gens à qui on peut regarder, Seigneur, pour nous aider à courir avec persévérance. Et Seigneur, bien à travers ça, bien, nous te remercions pour ton Fils bien-aimé, lequel nous sommes invités à regarder, à se tourner vers lui. Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alors, on veut te dire merci pour son don ineffable, pour nous, qui nous réconcilie avec toi, qui pardonne nos fautes, qui fait de nous tes enfants bien-aimés. On veut te remercier, Seigneur, on veut être reconnaissant ce matin. Notre cœur, oui, rempli de joie que tu t'es donné pour nous. Et Seigneur, bien, tu veux aussi ce matin nous aider dans notre course avec toi, à travers peut-être des moments difficiles qu'on peut vivre, actuellement, chacun de nous, pour toutes sortes de raisons. Et tu veux nous encourager, tu veux nous faire du bien, tu veux nous aider à regarder à cette course à laquelle tu nous invites et à laquelle, Seigneur, bien, tu prends part aussi parce que tu es avec nous. Alors, bénis ce temps que nous allons avoir. Merci encore pour ta présence, tout ce que tu es, tout ce que tu accomplis. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, frères et sœurs, la semaine dernière, bien rapidement, hein, on avait vu une définition d'un mot où ce que c'est dit au départ, bien, ce mot-là veut dire sentiment de perte de motivation ou d'espoir. Comme je disais, bien, peut-être qu'à matin, vous êtes comme ça. Hein, vous avez ce sentiment-là de découragement, vous êtes démotivé. Puis, ça dit que ce sentiment-là, ça vient d'un échec ou d'une difficulté. Qui n'en vit pas? Qui n'en vit pas? Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous emmener dans une absence de volonté à persister dans une activité. Hein? Ça fait que si on est impliqué dans quelque chose, bien, ça se peut que là, on n'a plus le goût de continuer. On est découragé, en fait. Donc, c'est le mot du découragement. Et puis, bien, aujourd'hui, bien, on veut s'encourager. Le Seigneur veut nous encourager parce qu'il sait qu'on vit du découragement, mais il sait quoi faire pour nous faire passer par-dessus ça. Puis c'est ça qui est beau, puis ce matin, bien, on va regarder ça. En juillet dernier, bien, c'est ça, une de nos filles, Sarah, les jumelles, en fait, Sarah et Esther, ce sont des jeunes qui, depuis qu'ils sont jeunes, ils aiment courir. Ça fait que, là, la semaine prochaine, bien, ils vont aller faire le marathon de Montréal. Ça fait qu'ils ont bien hâte. Puis en juillet, bien, on est allé voir, Sarah a fait une course, ils appellent ça de la trail, ils courent dans le bois. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal gros, là, mais elle a fait une course, elle a couru 80 km. Ça lui a pris 11h30 faire ça. Ah, il y en a qui couraient 110 km, là. Ah, j'ai dit, cours pas plus que ça, là. Mais bon, on est allé, toute la famille, on est allé la voir, tout ça. Puis, c'est sûr, tout le monde part en même temps, hein? On n'a pas vu le départ parce qu'ils ont commencé de bonne heure. Elle est arrivée vers 4h30, c'est-à-dire qu'elle est partie quasiment vers 4h le matin, 4h30 ou 5h, je pense. Disons qu'on était, ben non, on était sur la route. Nous autres, on est partis samedi matin, on s'est rendus là. Puis c'est sûr, hein, une course, tout le monde part, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est, hein, des belles chaussures, bien propres, tout ça. Puis là, ben, ça part. Mais en cours de route, bien, c'est sûr, hein, les difficultés se manifestent. Peut-être du découragement aussi. Des chutes possibles. Il y en a qui chutaient. Nous autres, on est arrivés, puis on est allés à la ligne d'arrivée. Ça fait que là, bien, il y avait différentes courses. Il y avait des 30 km, des 50, des 80. Ça fait qu'on voyait les gens arriver, puis on comprend que ceux qui arrivaient, ils n'étaient pas tous bien disposés. Il y en a qui étaient mieux disposés que d'autres. Là, tu voyais les autres, il y en a quasiment, je pense, ça aurait pris une chaise roulante là, pour les amener à la ligne d'arrivée, la force qui avait l'air de souffrir. Puis c'était très, très difficile. Là. On peut dire que c'était une course de longue haleine, hein? 80 km. Là, le marathon, la semaine prochaine, c'est quasiment des pinottes. Là. Je veux dire, c'est la moitié moins. Tu fais 80, là, tu en cours 40. Ça fait que... Mais quand même, c'est exigeant. Ça fait qu'on sait que dans une course, ben, on va rencontrer des difficultés, ça va être difficile. On va rencontrer la température. On ne sait pas quel climat qu'il fait quand on court. Il vente, il fait froid, il fait chaud. Ça fait qu'on a besoin de s'hydrater, manger à travers tout ça. Puis c'est sûr, hein, souvent c'est mental. Les gens vont souvent dire, à un moment donné, rendu un certain kilométrage, tu frappes un mur. C'est comme là on dirait, là tu perds toute ton énergie, tu te demandes si tu vas être capable d'arriver, tu as envie d'abandonner. Puis là-dedans, ben, j'ai vu qu'il y en a aussi qui ont tombé, hein, parce que c'était, il y avait mouillé, tu cours en forêt, ça fait que c'est pas, c'est dénivelé, même ils montent des grosses côtes, ils descendent, ça fait que même Sarah, elle s'est plantée une couple de fois, heureusement, elle s'est pas fait mal, mais il y en a que tu voyais qui s'était sûrement fait mal, ça fait que nous autres, on est impliqués dans une course aussi, on est sujet à ça. On est sujet à rencontrer des difficultés, de l'adversité, puis on peut vivre du découragement. Comment surmonter tout ça? Comment surmonter tout ça? Pour nous aider, bien, on voit que au départ, par exemple, si on tourne ici, attends un peu, c'est tout ça que j'ai. Non, comment ça se fait que... Il me manque un bout. Je ne sais pas où ce qu'il est. En tout cas, je vais le lire pour vous. Hein, le livre aux Hébreux, comme je vous avais dit un peu, quand on le considère, on sait que c'est un livre qui avait été écrit par un juif, possiblement. C'est sûr, certains disent que c'est Paul, c'est pas écrit. Bon, je ne suis pas là pour discuter, c'est-tu vraiment Paul qui a écrit ça ou un autre. En tout cas, il y a un auteur, et puis cet auteur-là, on voit que c'est un juif sûrement, parce qu'il parle du judaïsme. Hein, il parle beaucoup de l'Ancien Testament, mais en même temps, mais en parallèle, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, qui montre qu'il est supérieur à l'Ancienne Alliance. puis qui ont pu à faire des sacrifices ou à suivre des fêtes, à suivre des journées, parce que certains continuaient de vivre ça. Mais on voit aussi que possiblement l'Épître aux Hébreux, bien, hein, nous autres, on est en 2024, hein, l'Église ici à Robertval a commencé dans les années 70, je ne sais plus exactement, Monique, sais-tu quel jour, quelle année, 70? Septembre 70, hein, là on est rendu en 2024, donc il y a des gens qui ont commencé là, hein, Monique, toi tu as commencé un peu là, tu étais là au début, en tout cas d'autres personnes peut-être, là, mais première réunion, tu étais là, hein, tu es la vétérante ici, là. T'es la doyenne, en fait. Ça fait que l'Épître aux Hébreux, quand on la lit aussi, bien, c'est une Église qui existait depuis un certain temps. Donc, le danger, un peu, c'est quoi? C'est qu'on ralentit un peu dans notre course. On va dire, bien, c'est normal parce qu'on est des humains, mais quand même, l'auteur considère ça comme un danger. Puis, par exemple, bien, si on tourne juste un petit peu en arrière, au chapitre 10, là, je ne sais pas pourquoi que je n'ai pas ça sur... C'est pas ça sur ma suite. À partir du verset 32, bien, on voit que quelque part, possiblement un peu, il avait ralenti dans leur course. Parce qu'il dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hein? » Donc, il y a eu un point de départ pour ces gens-là dans la foi en Jésus-Christ. Il dit, « Souvenez-vous de ces jours-là. » Ça veut dire peut-être qu'ils avaient déjà un peu oublié. Puis qu'est-ce que ça le fait, ça, quand ces gens-là se sont convertis? Bien, ils disent au verset 33, « D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations. Hein, » ça fait que quelque part, bien, ces gens-là, un peu, ont subi peut-être de la persécution. Comme je disais, il y avait des Juifs qui, eux autres, à cause de leur foi en Jésus-Christ, bien, c'est sûr, là, ils ne suivaient plus les règles de l'Ancien Testament. Hein, ils ne participaient plus aux fêtes, ils ne participaient plus à ça. Ça fait que, bien, ils ont subi de l'oppression de leur famille. Ils ont peut-être perdu leur travail. Là, il dit, hein, vous étiez exposés en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Hein, il y avait d'autres croyants aussi, puis ils s'associaient à eux. Il dit, souvenez-vous de ça, possiblement qu'ils l'avaient un peu perdu. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie même l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il leur dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Hein, il avait perdu peut-être ça un peu, là. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hein, on comprend notre assurance dans le Seigneur Jésus-Christ, cette assurance qu'il a tout payé pour nous. On peut se reposer pleinement sur lui. On peut aller à lui avec, hein, quand on recule au chapitre 4, il dit quoi? Il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. On peut se présenter tel qu'on est parce qu'il nous connaît. Il n'exige rien de nous dans ce sens-là. Il nous connaît. Puis même Jésus, ce grand souverain sacrificateur, il était fait comme nous. Il compatit avec nous. Mais ici, bien, ils sont en train, l'auteur, quelque part, on voit que quand on lit aussi, il veut leur rappeler ça, possiblement qu'ils avaient ralenti dans leur course, hein, ou le danger, bien, c'est ça, on prend un air d'aller puis on reste comme ça. Puis lui, bien, il veut les encourager à dire, OK, continuez. Hein, là, vous êtes mis sur le neutre un peu. Vous pouvez continuer à courir. Gardez cette assurance. Ça fait que possiblement, bien, l'Église, cette Église-là, bien, malgré le fait qu'elle n'était pas nécessairement très, très vieille, bien, déjà, le danger, c'est qu'on tombe dans ce genre de piège-là, de dire où est-ce qu'on se sent bien, puis on garde ça comme ça. Puis l'auteur veut dire, hey, la course n'est pas finie, continue, lâche pas, n'abandonne pas. C'est pour ça que, hein, quand, mettons, on va voir quelqu'un, là, quand on était à la ligne d'arrivée, c'est sûr qu'on aurait pu aussi aller avec Sarah. Il y avait un point où, ce qu'on aussi, à mi-chemin, on pouvait aller là, mais on n'avait pas le temps de se rendre là. Donc, on s'est rendu plus à la ligne d'arrivée. Mais il y avait une place où, ce coup-ci, on pouvait aller pour encourager les gens. Hein, quand on participe à une course, c'est quoi qu'on dit quand les gens courent? Qu'est-ce qu'on leur dit habituellement?
Continue,
lâche pas. Let's go. T'es capable. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de les encourager. Parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Hein? On s'imagine être là aussi, on aurait besoin aussi d'être encouragé, tout ça. Ça fait que l'encouragement, c'est important. C'est pour ça que l'auteur, un peu ici, commence avec quoi? Avec un grand encouragement. Au verset 1, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ces gens-là de l'Ancien Testament, c'est pas juste des gens qui ont vécu, puis là, ben gars, on s'en occupe plus. C'est des gens qui ont un témoignage encore aujourd'hui à nous donner. Puis qu'on peut regarder, dire, ah, ces gens-là, là, actuellement, bien, ils sont là pour nous encourager. Ils nous disent que la course est possible. Pas que la course est impossible. Que la course est possible parce qu'eux, ils l'ont fait. Ils ont continué de courir. Ils ont persévéré dans leur attachement à Dieu. Ils ont persévéré dans leur attachement les uns envers les autres. On va voir ça tantôt. Malgré des difficultés. Comme on vient de voir ici au chapitre 10, ça ne sera pas plaisant aujourd'hui si quelqu'un viendrait et nous enlève tout ce qu'on possède. Moi, je trouverais ça dur. Ça ne me tenterait pas. Puis je ne pense pas que ça tenterait personne. Mais bon, heureusement, nous, on ne vit pas ça. Mais il y a d'autres frères et sœurs dans le monde, on sait qu'ils sont exposés à ce genre de danger-là, même peut-être pour leur vie. Nous, on ne vit pas ça, on vit d'autres choses. Donc, ces frères et sœurs, sont là pour nous encourager. Hein? Ce ne sont pas juste des gens, on va dire, ce n'est pas un témoin dans le sens qu'ils nous regardent, mais leur vie est un témoignage de foi et de persévérance. Alors, aujourd'hui, bien, on peut regarder à ces gens de l'Ancien Testament et être encouragé à continuer. Ils sont là pour ça. Puis l'auteur, bien, il ne dit pas ça au début de son épître, il dit ça à la fin. Hein? Il reste juste un autre épître, un autre chapitre plutôt après. C'est comme un peu, il conclut tout ça, il dit « ainsi donc ». Puis là, bien, il revient bien sûr au chapitre 11, puis là, on pourrait reculer 10, 9, 8 jusqu'à 1. Hein, on a ces gens-là qui sont là. Mais vous, vous vivez aussi des difficultés. Vous avez de la misère à courir. Regardez à ces gens-là. Ils vous disent un matin, « Lâche pas, t'es capable. » Moi, j'ai besoin d'entendre ça dans ma vie, que je suis capable. Continue, lâche pas. Puis un matin, on veut se dire ça aussi, de continuer, de ne pas lâcher. Puis de regarder, bien, c'est ça comme on va voir tantôt, peut-être à des choses qui nous ont ralenti malheureusement, parce qu'on est des humains. Puis le Seigneur, il veut qu'on y aille de l'avant, il veut qu'on poursuive. Donc, la course à laquelle on est appelé, bien qu'elle soit de longue haleine, comme j'ai dit, a déjà été faite par des gens. On en a la preuve dans le chapitre 11. Donc, c'est cette grande nuée de témoins de l'Ancien, des hommes et des femmes de l'Ancien Testament. Parfait. Maintenant, hein, on avait vu ça un petit peu la semaine passée. Donc, bien sûr, nous sommes environnés de ces gens qui nous encouragent aujourd'hui, qui nous disent « lâche pas, tu es capable ». Mais en même temps, bien, il y avait un problème. C'est quoi le problème? Ils traînaient un fardeau. Puis malheureusement, bien, aussi le péché qui était aussi présent, puis qui est présent dans nos vies aussi, on n'en est pas fier, puis on n'aime pas ça. Mais malheureusement, ben, il y avait un fardeau ou des fardeaux et le péché qui les enveloppe facilement. Ça, c'est la problématique. Ça les empêchait de courir avec persévérance. Ça l'affectait leur course. Puis comme je dis, bien, le mot fardeau ici, ce n'est pas comme dans Galates, où ce que c'est marqué au chapitre 6, de porter les uns les autres les fardeaux. Ce n'est pas ce mot-là. Le mot ici, il est juste là. On ne le retrouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Et puis, on dit que c'est une protubérance. C'est une masse qui est là. Puis cette masse-là, bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous gêne. Elle nous nuit dans notre course. Parce qu'on comprend que courir, bien, idéalement, c'est de courir le plus léger possible. Si on court avec un sac de 50 livres sur le dos, ça va être extrêmement difficile. Ça fait qu'il est appelé à rejeter tout fardeau. Tout fardeau. Donc, on avait regardé un petit peu qu'est-ce que ces fardeaux-là voulaient dire. Puis, on avait vu, en fait, si on lit l'Épître aux Hébreux, possiblement, dans leur contexte à eux, c'était quoi? C'était des Juifs qui, possiblement par crainte de représailles, par peur, bien, s'étaient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ pour dire, c'est mon Sauveur, mais en même temps, je vais continuer à faire des rites religieux de l'Ancienne Alliance. Ça fait que je vais participer à des fêtes. Je vais suivre certains jours. Peut-être même, bien, gars, je vais manger certaines choses aussi. Ça, c'était un fardeau. Parce que quand tu fais ça, tu ne fais pas d'autre chose. Tu ne peux pas te concentrer sur ta course. Donc, dans le contexte ici, bien, on voit que c'était possiblement en rapport avec ces rites religieux-là. Donc, un peu, on s'était demandé, bien, nous aussi, est-ce que, des fois, la religion peut prendre une place dans notre vie? Parce que la religion, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rassure. On a l'impression de faire les bonnes choses. On a l'impression d'être correct avec Dieu. Ou bien là, en faisant ça aussi, Dieu nous aime plus. Ça fait que c'est le danger auquel on est tous exposés. Puis encore là, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire certaines choses. Hein? Comme je disais, des fois, on peut lire la parole de Dieu un peu, on est devenu un peu habitué, puis ça devient un rituel. Ou bien là, on a lu aujourd'hui, donc on est content. Hein? Là, on check notre liste, j'ai fait ma lecture. Je ne dis pas qu'on n'a pas à lire. On devrait lire. Mais c'est de voir, est-ce que je suis pris un peu dans une structure qui m'étouffe? Ou ce qu'on va voir tantôt, en fait, c'est ça. Est-ce que ça, vraiment, ça m'amène vraiment plus à aimer Dieu, à compter sur lui? Ou bien plus dire, bien, j'ai fait mon travail, j'ai fait les bonnes affaires, est-ce que ça m'aide à me tourner aussi vers les gens autour de moi? Où est-ce que j'en suis dans ma marche avec le Seigneur? Ça fait que c'est toutes des questions un peu qu'on a à se dire. Est-ce que tout ça, un peu, là, je suis pris dans une espèce de marasme? Puis, j'ai changé peut-être, j'allais avant anciennement dans un bâtiment X, là, je suis rendu ici. On change de bâtiment, mais on garde les mêmes affaires. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment mon Sauveur? Hein? Est-ce que c'est lui qui a pardonné mes fautes? Est-ce que c'est lui mon assurance? Donc, un peu les fardeaux, un peu, là, il faut regarder ça dans cette chose-là, puis le regarder pour nous aussi, parce que, comme je dis, il y a des choses là-dedans, on n'est même pas confronté à ce qu'il vivait. Mais nous, qu'est-ce qu'on vit? Dans le siècle dans lequel on vit aussi, c'est quoi les dangers qui sont là, qui font que, justement, ça va prendre plus de place dans notre vie que notre attachement à Dieu, puis notre service pour lui, puis pour les uns envers les autres. Vous trouvez la bonne page. Je vais juste regarder, voir, comme je dis, c'est ça. C'est sûr, dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas l'Épître aux Hébreux. Oui, on peut vivre des choses des fois où ce que, par crainte, par peur, mais aussi dans ce temps-là, il y avait un autre danger, c'est qu'il y avait des gens aussi qui enseignaient qu'il fallait qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils continuent de s'attacher, on va dire, à l'ancienne alliance, de continuer de suivre des fêtes. Puis même à travers ça, bon, on va le voir tantôt là, dans un autre verset, même, il disait, bien, il faut que tu te fasses circoncire aussi, c'est important. C'est important. Ça fait qu'on va voir ça tantôt. Donc, un peu dans Galates, c'est sûr que si on considère quand même le texte, c'est beaucoup plus... Il y avait des faux docteurs, en fait. Les autres qui enseignaient ça. Jésus-Christ plus, on va dire, la religion de l'ancienne alliance. Donc, ce n'était pas juste de dire « Jésus-Christ est mon sauveur, il me pardonne, je me repose entièrement sur son œuvre à la croix ». Je vais continuer à faire des choses aussi. Puis là, bien, c'est sûr, qu'est-ce que ça va emmener aussi? Bien, je vais être bien vu de certaines personnes. Ça va m'enlever peut-être du stress, ça va m'enlever de l'opprobre, ça va m'enlever des critiques. Ça fait qu'on est toujours coincé un peu avec ça aussi. C'est nos luttes. On n'aime pas ça souffrir. Ça fait qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger nos souffrances? Donc, eux autres aussi vivaient ça. Donc, on voit ici, bien... Je vais tourner, là, je m'excuse que ça soit tout sorti comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez le verset, le chapitre dans Galates aussi, là, vous pouvez regarder dans vos Bibles. Donc, si on regarde un peu, ici, au chapitre 4, versets 8 à 11, c'est que ça dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Bon, il y avait des gens très religieux. C'est sûr que dans ces Galates-là, il y avait des païens aussi qui se sont tournés vers Dieu, qui servaient des dieux, mais qui ne le sont pas par nature parce que, en fait, il y a juste un Dieu, il n'y en a pas 100, le vrai Dieu des cieux. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou que plutôt vous avez été connu de Dieu, comment retourneriez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc, le danger, qu'est-ce qu'on voyait? C'est que ces gens-là, pourquoi Paul leur dit, « Pourquoi tu retournes à ce que tu faisais un peu avant, là? Hein? Tu t'es servi. Tu deviens esclave de ça. Est-ce que ça aide à courir? » Ben non. Ça ralentit. Hein? Vous observez des jours, des mois, les temps et les années. Paul, il dit, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Donc, on voit ici dans Galates, n'est-ce pas, cet aspect-là. Si vous tournez juste après, au chapitre 5, Paul, il dit, maintenant, c'est pour la liberté. Hein? Tantôt, il parlait de servitude, vous êtes... Hein, quand vous retournez à ça, vous vous êtes asservi, hein, vous êtes prisonnier de ça. Le Seigneur il est venu pour nous libérer de toute cette contrainte-là de faire des choses pour Dieu, pour plaire à Dieu. Pour même peut-être dire « je gagne mon ciel aussi à cause de ça ». Il dit « vous n'avez plus besoin de faire ça ». Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Encore là, le mot liberté, certains l'ont pris, bien, je peux faire ce que je veux. Hein, c'est marqué liberté, cette-là. Moi, je fais ce que je veux, puis, gars, mais je suis sauvé. Mais non, si tu fais ça, tu n'as pas compris l'Évangile de Jésus-Christ. On n'est pas appelé à faire ce qu'on veut, mais ce qu'on va faire avec Dieu va nous rendre libres. Parce que Dieu a tout fait pour nous, par Jésus-Christ. On n'a pas à gagner sa faveur, on n'a pas à en faire plus dans cette perspective-là, mais on est appelé à l'aimer, à le servir, à servir les autres. Ça aussi, peut-être qu'on a oublié ça, puis on dit, ben moi, je suis libre, là, je vis ma vie, puis... Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Puis ça, c'est le danger qui nous guette aussi. comme je dis un peu, l'aspect religion de notre vie, on retombe là-dedans facilement. Donc, le salut de Jésus-Christ ne nous sert plus à ce moment-là. Parce qu'il nous dit on ne vit plus sous la grâce. Hein. On revient à la loi. C'est la loi qui nous justifie. On fait la loi, donc on est justifié. Mais le problème, c'est qu'on doit toute la faire au complice pour être justifié. Puis comme personne ne le fait, on est tous coupables devant Dieu. On se refatigue encore. Il dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, c'est bien certain. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Wow! Hey, ça, c'est fatigant. Il dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. » Vous êtes déchus de la grâce. Hein? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. » c'est pas grave si tu n'es pas circoncis, là. Puis si tu l'es, bien, c'est pas grave non plus, tu l'es, c'est tout. Mais c'est quoi qui est important? Il dit, c'est la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. C'est ça, courir avec Dieu, c'est aujourd'hui dire, Seigneur, j'ai mis ma foi en toi, là. C'est quoi tu m'invites, là? Tu m'invites que cette foi-là va porter fruit. Hein? J'étais pas là pour M. Street, là, mais il a parlé de l'esprit. C'est laisser Dieu agir dans notre cœur parce que Dieu nous invite à courir. Puis mon intérêt, c'est quoi maintenant? C'est je suis appelé à aimer. Maintenant, aimer Dieu. Hein? Les deux grands commandements, le Seigneur a résumé ça à deux choses. Aimer Dieu, aimer son prochain. Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Parce que la foi agissant dans l'amour va m'emmener vers Dieu. Me réjouir en lui, me reposer sur lui, et me libérer de toute exigence, toute religiosité pour gagner mon ciel ou obtenir ses faveurs. Puis, il m'invite à le suivre, à l'aimer de plus en plus, mais aussi à aimer mon prochain. C'est comme quand on avait eu la... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la COVID, là. En tout cas, peut-être c'est un mot qui ne vous dit plus rien. Hein? On avait décidé dans le conseil de ne pas se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas créer des groupes. Dire, ah, bien, un est vacciné, il ne pouvait pas venir parce qu'il fallait être vacciné. On a resté sur Zoom. Hein? Puis là, bon, on s'est dit... C'est pas la vaccination qui a de l'importance, ni de ne pas être vacciné. Pourtant, on mettait tellement d'emphase là-dessus. Le vaccin, hein? On pourrait mettre ça ici, là, on pourrait mettre plein d'affaires. C'est pas le vaccin qui est important, c'est pas d'être vacciné ou pas. T'as-tu la foi qui t'amène à aimer ton prochain, à aimer Dieu? Puis on a décidé de faire ça dans cette perspective-là. C'est ça, aimer. C'est se considérer, c'est d'avoir du respect. On s'est dit, OK, il y a des gens qui, eux, pensent que ce n'est pas bon le vaccin, on les respecte. Il y en a d'autres qui pensent que c'est important, on les respecte aussi. Ce n'est pas ça qui est important. On s'est chicané pour ça. Puis aujourd'hui, mon chicane, ce n'est pas le vaccin, c'est d'autres choses. Là, je regarde Internet, là, un parle d'une affaire, puis là, ah, oh, eux autres, ils pensent de même, puis c'est pas bon, puis un autre. On s'aime-tu quand on fait ça? Qui que la vérité, c'est Dieu. C'est Dieu seul. Nous, souvent, on prétend qu'on l'a. C'est pas ça qu'on est appelé. Oui, on est appelé à marcher dans la vérité. Mon salut en Jésus-Christ, ça, je suis assuré de ça. Pour d'autres choses, je peux avoir une opinion, je peux comprendre ça de même, puis je respecte ça. Hein? Car en Jésus-Christ, ni ça là, n'a de la valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Puis si on veut courir, frères et sœurs, avec persévérance aujourd'hui, on a besoin de considérer ça dans nos vies. ma foi en Jésus-Christ devrait m'emmener à être motivé par cet amour puissant de Dieu qui me fait regarder les autres comme le Seigneur les regarde. Puis je veux aimer ces personnes-là, puis je veux aimer le Seigneur dans ça. C'est important. Donc, on avait vu un petit peu dans notre fardeau, le danger un peu, c'est que on devient à l'aise, on devient confortable. On devient même, le danger, c'est quoi? On devient insensible aussi. On devient insensible à Dieu, on devient insensible aux autres. On ne manifeste pas notre foi agissante dans l'amour quand on est comme ça. C'est le danger qui nous guette. Moi, je sais bien que personnellement, j'aime mieux du confort que pas du confort. J'aime mieux être servi peut-être que de servir, parce que c'est exigeant. Mais s'il n'y a personne qui sert, ça fait que c'est comme on a des enfants, on les élève, ces enfants-là ont besoin qu'on soit là, qu'on les considère, puis ça va coûter quelque chose. Mais si on ne paye pas le prix, il y a des conséquences à ça. Notre course avec le Seigneur est exigeante. On a besoin de respirer. On a besoin des fois de prendre une petite pause aussi, de réévaluer notre course. C'est pour ça que l'Église, en fait, ce n'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. C'est les uns les autres. Est-ce qu'on se supporte les uns les autres? Est-ce qu'on participe? Vous êtes ici ce matin, vous voulez qu'il y ait une communauté ici dans l'Assemblée. Mais cette communauté-là, elle a des besoins. Elle a besoin de personnes. Comment je peux prendre ma place, là, tout simplement? Pas la place de Jean, juste moi, ma place. Est-ce que je peux prendre une place? Parce que c'est là qu'on s'édifie ensemble. On construit l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'on est appelé à faire ces choses-là. Mais des fois, on devient insensible à ça. On va plus recevoir, aimer recevoir, mais on ne veut pas nécessairement donner. Donc, on est insensible, on tombe dans une routine. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, je vais continuer pour le temps qui reste. Je ne sais pas pourquoi c'est arrangé comme ça. On dirait qu'il y en a un qui a trafiqué mon PowerPoint. C'est pas grave. C'est qui, là? C'est toi, hein? C'est vrai. C'est toi. Chérie? C'est toi. Frères et sœurs, il nous dit, dans le fond, c'est ça, on a besoin de s'encourager à savoir qu'il y a des gens qui ont réussi la course. On peut, nous aussi, on est capable de la réussir. On n'est pas tout seul là-dedans. Mais on a besoin justement de se libérer de fardeaux là, qui peuvent être là, qui nous empêchent de courir, qui nous affectent dans notre marche avec le Seigneur, dans notre amour pour lui et pour les gens. Mais aussi, il nous dit quoi? On peut revenir là. Il dit quoi? Rejetons aussi tout fardeau. On vient d'en parler un peu. Puis on pourrait mettre plein d'autres affaires aussi là-dedans. Ça peut être vaste. C'est juste pour nous donner une idée. Et aussi, quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Puis il nous invite à courir avec persévérance. Donc, un peu le péché qui nous entoure, qui nous enveloppe. Le mot, il veut dire qui nous encercle ou même qui nous tend des embûches. Le péché est là, on risque de chuter. On est encerclé par ça. C'est qu'on doit veiller là-dessus. Le péché, c'est sûr que c'est un mot général. On pourrait dire, peut-être nous, dans l'Église évangélique, le péché, on a entendu souvent peut-être des prêches là-dessus. Peut-être plus dans le passé, peut-être que là, on prêche moins sur le péché. Mais n'empêche, le péché, c'est pour ça que le Seigneur y est venu. Il est venu pour le péché, parce que le péché nous sépare de Dieu. Puis malheureusement, encore aujourd'hui, bien, on est appelé ici à quoi? Il nous dit, et le péché, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Puis le péché, bien, c'est sûr, quand on regarde ça un petit peu, le mot, bien, on comprend ça, hein, c'est comme une cible, là. On tire sur la cible, idéalement, c'est tiré dans le milieu. Mais quand on rate la cible, bien, la Bible nous dit que quand on pêche, on rate la cible. On rate la cible que Dieu a pour nous. Ça dit aussi que c'est commettre une faute. Quand on lit la parole de Dieu, bien, on nous expose souvent à certaines actions qui sont répréhensibles et que les auteurs ne veulent pas qu'on tombe là-dedans. Hein? Je pense qu'on est tous d'un certain âge où on était exposé beaucoup à ça, même dans le passé, là. Le péché, on a entendu beaucoup de ça. Ça dit manquer le chemin de la droiture. Hein, on est appelé à marcher sur un chemin droit que Dieu nous invite à suivre, mais nous autres, on fait des curves. Hein? On dévie du chemin. Ça dit s'éloigner de Dieu, de sa loi, de ses directives. Quand on fait ça, on pêche. Quand Dieu nous donne une directive claire et on ne la fait pas, on pêche. Puis même dans Jacques 4, 17, bien, ça dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, comme un péché. » Bien, je dois dire, je pêche souvent. Hein? Des fois, on sait qu'on devrait faire ça, mais on ne le fait pas. Parce qu'il y a un prix à payer. Hein? Puis ça devrait nous retourner dire hey, « Est-ce que Seigneur, vraiment, je t'aime? Est-ce que j'aime la personne qui est là devant moi, ou bien je m'aime un peu plus moi-même? » C'est comme quelqu'un un jour, il disait, bien, quand on veut savoir si vraiment les gens, s'ils s'aiment plus que les autres, là, bien, souvent, on voit ça quand on fait des brunchs. Hein? Quand on arrive, là, puis sur la table, il y a plein d'affaires, souvent, bien, quand tu regardes les gens, tout de suite, ils se dépêchent. Plusieurs vont prendre les meilleures pièces. Ils veulent s'assurer qu'ils ont du dessert. C'est pas grave s'il n'y en a pas. Là, tu arrives, il n'y a plus rien. Hein? Puis ça montre souvent qu'on pense pas mal plus. On s'aime plus, nous, pas mal, qu'on peut aimer les gens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas espérer ou on aimerait ça, peut-être manger un bon plat de bine. Là, hein? Moi, j'aime ça. Peut-être que vous n'aimez pas ça, mais hein? La mélasse, puis bon, hein? C'est bon. Pour ceux qui aiment ça. Hein? C'est un respect dans nos choix de nourriture. Mais c'est vrai que des fois, hein, quand on réfléchit, on voit qu'on n'aime pas tellement. On s'aime plus nous. Puis le Seigneur, il dit, non, c'est pas ça, là. Avant, tu vivais de même. Aujourd'hui, on n'est pas appelé à ça. C'est un défi pour chacun de nous. Puis quand on fait ça, on court avec persévérance. Parce qu'on est appelé à ça. Le péché, hein? On est appelé à se rejeter le péché dans nos vies. Puis un peu, bien, ce matin, je voulais juste aller dans le péché aussi, dire, bon, bien, par exemple, tantôt on a parlé de satisfaction. On pourrait dire, tu sais, on devient satisfait de notre état. Les Hébreux, eux autres, bien, hein, dans le passé, ils disent, vous vous souvenez, là, hein, vous viviez comme ça, vous aviez accepté tout ça. Aujourd'hui, bien, c'est comme là, c'est plus là, ça. Hein? Il y a comme, on devient comme habitué à des choses ou bien on, c'est plus important ces choses-là. Fait que nous, par exemple, dans ce qu'on a vu tantôt, dire dans notre satisfaction ou tout ça, en quoi ça peut nous amener à pécher aussi? Parce qu'on pourrait dire, bien, je fais rien de mal. Moi, là je suis tout à matin, puis gars, je pêche pas, là. Bien, on va regarder un passage dans le livre, le dernier livre à la fin de vos Bibles. On va dire l'Apocalypse ou le livre de Révélation, chapitre 2. Puis bon, encore là, l'auteur parle d'Église. Et puis, à partir, prendre le bon verset. Je ne l'ai pas noté, mais Parfait. Bon. OK. Bon, ben, tout de suite, il commence avec, à l'église d'Éphèse, en fait. Hein? Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Bon, ben, on va dire, si on regarde ça un peu, ça serait supposé de faire référence au Seigneur, cette description-là. Il dit quoi? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert aussi à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Hein? C'est quand même des belles caractéristiques. On pourrait dire, wow, persévérance, travaille, supporte pas le mal, essaie de dire, oups, ça c'est faux, ça c'est vrai. Ils ont même souffert à cause de son nom, donc du Seigneur. Donc on pourrait dire, wow, c'est des belles caractéristiques, puis c'est vrai, on est appelé à ça. Mais bon, malheureusement, ben, il y a quelque chose qui est là, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Donc l'amour envers Dieu. C'est devenu machinal, hein? C'est devenu une routine, c'est devenu, on pourrait dire, peut-être plus religieux que vivant, même s'il faisait plein de belles choses. Hein? Il reproche, souviens-toi. Après ça, il dit, d'où tu es tombé, repens-toi. Fait que quand on dit à quelqu'un de se repentir, ça veut dire que tu as péché. Ici, on voit que l'amour pour Dieu avait diminué. C'était devenu peut-être plus une routine. On est habitué de faire des choses, donc on fait ça comme ça, puis on entretient ça. Puis comme je dis, il n'y a rien de mal dans ces choses-là. Là, on est appelé à faire ça. C'est toujours le motif de notre cœur. C'est pour ça que c'est marqué de garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'on sombre dans la routine, on sombre dans l'habitude, on fait des choses, puis on perd justement la raison peut-être d'être de tout ça. Puis on a besoin de réévaluer ça souvent dans nos vies, pas pour se fouetter, mais dire, c'est vrai, Seigneur, je pense que je suis tombé un peu d'une routine, je suis devenu trop bien, je suis confortable, je suis peut-être même insensible, j'ai perdu ma sensibilité première. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur, il me semble dans mon cœur, je dis, « Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Où est-ce que je peux être pour toi? » Puis avec le temps, des fois, tu perds ça. C'est ma lutte interne aussi qui est là, notre chair aussi qui lutte contre ça, qui ne veut pas ça, qui veut qu'on reste confortable, qui ne veut pas laisser la place à l'esprit, dire c'est l'esprit qui va me contrôler, puis qui va me diriger, puis je vais aller là où ce qui m'invite à aller, dans la joie, dans la reconnaissance, puis de le faire par amour pour Dieu. On voit ici qu'il avait perdu tout ça. Puis ils disent, repens-toi. Donc, des fois, le péché, c'est sûr, on est habitué peut-être, c'est des grosses affaires, oh, je ne vole pas, puis je n'ai pas tué personne, hein, puis on ne le fait pas, puis tant mieux, parce que ce n'est pas bon. Mais le péché, c'est beaucoup plus subtil. Puis de voir où est notre amour pour Dieu ce matin, bien, si on n'aime pas Dieu, bien, c'est un commandement de l'aimer. Comment qu'on peut mieux aimer Dieu aujourd'hui? Pour nous inviter à courir. Puis, un petit peu dans tantôt, on a lu dans Galates, chapitre 4, on l'a lu, hein, Galates, chapitre 5, verset 13. Je vais juste revenir un petit peu, ben, je vais le lire comme ça. Ça dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Hein? Encore, le Galate, c'est beaucoup sur la liberté. Mais encore là, ici, on voit quel genre de liberté que c'est. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, on voit un peu Galate, quand on continue un peu, il y a les œuvres de la chair, il y a les œuvres de l'esprit. C'est que le danger, bien, on va plus sombrer dans la chair. Il dit, ben non, c'est pas un prétexte, là, maintenant, là. De vivre comme ça, On est appelé à vivre selon l'Esprit de Dieu. Mais quand on vit comme ça, ça fait quoi dans notre... ça devrait faire quoi? Il dit « Rendez-vous encore par quoi? » Par la charité. C'est toujours l'amour qui doit nous motiver. Pas dans le but d'obtenir plus, pas pour montrer qu'on est meilleur qu'une autre personne. Parce qu'on est aimé de Dieu, comme on voit dans Jean, on aime Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a aimé le premier. C'est cet amour-là qui doit nous motiver. On doit revenir à cet amour-là. Parce que c'est à travers ça qu'on obtient cette liberté-là. Parce que je ne dépends plus de ce que pensent les autres. Là, des fois, je me rends compte que je fais des choses parce que, je t'apprécie. On me dit bravo. Puis là, ça nourrit ma chair. Mais ce n'est pas mauvais d'être encouragé, puis on a besoin d'être encouragé. Il faut tracer cette ligne-là dans notre vie. Donc aujourd'hui, si on veut servir, si on veut... Encore là, ce n'est pas dans le but d'obtenir quelque chose. Puis c'est ça, il faut sonder nos cœurs, dire, il est où mon cœur là-dedans? Hein, quand vous faites quelque chose, puis personne ne vous remercie, comment vous vous sentez? Ça me dérange pas. Peut-être, tant mieux. Mais souvent, ça nous dérange un petit peu. On aurait aimé ça. Puis des fois, on en a besoin aussi. Puis on a besoin de s'encourager les uns des autres. Il dit ici, justement, rendez-vous par la charité, encore, pas par l'obligation, pas parce que Dieu va t'aimer plus, pas parce que là, les gens vont t'aimer plus aussi, tout simplement par l'amour. L'amour que Dieu met dans notre cœur, il dit que maintenant, on peut la donner aux autres. Comment mieux vivre cet amour-là qui nous rend libres? Puis on se rend compte, souvent, on est prisonnier de ce que pensent les gens. Je fais telle affaire parce que ça va me donner ça. Je vais faire telle affaire parce que je vais recevoir ça. C'est pas bon, ça. Ça, encore là, c'est tourner vers soi-même. Je fais quelque chose dans le but d'obtenir. Mais si je suis vraiment libre en Jésus-Christ, je le fais par amour. Les résultats, Dieu décidera des résultats de ça, mais son approbation, son amour, Dieu me la donne pour me motiver à faire ça. Donc, encore là, par la charité, c'est quoi qu'on est appelé? Si on veut courir avec persévérance, entre autres, c'est d'être serviteurs les uns des autres. Où en suis-je dans ma course par rapport à ça aujourd'hui? De pouvoir être au service des uns des autres, pour le bien commun. Parce que Dieu m'invite à ça aujourd'hui. Est-ce que je suis convaincu de ça? Comme on disait avant dans le passé, peut-être qu'on forçait les gens à faire des choses un peu. Là. On mettait de l'insistance. Aujourd'hui, on n'ose plus mettre de l'insistance parce que ça fait « arrête ça, là. » Je vais décider ce que je veux ou bien. Ça fait qu'on ne dit plus rien. Mais comment trouver le juste milieu là-dedans? S'encourager là-dedans. Donc, être au service des... je pense que j'ai perdu mon... C'est ça. J'ai oublié un bout de chez nous là, à cause de Linda. Donc, serviteur des uns des autres. Parce qu'après ça, il dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Linda, tu ne m'as pas aimé là-dedans, là, gars. Oui, moi aussi. Comment on peut aimer notre prochain aujourd'hui? Mieux. Selon ce que Dieu veut. Pas selon notre chair. Pas dans le but d'obtenir quelque chose. Pas dans le but d'être. Mais tout simplement parce que Dieu nous invite à ça. Puis c'est vrai que dans cette liberté-là, on trouve la joie qu'on a besoin, Dieu va nous la donner. On l'a tout expérimenté des fois. Ça, quand on vit comme ça, on est content. Une joie qui vient de Dieu. Pas parce qu'on était meilleur que les autres, tout simplement parce que, Seigneur, j'ai couru la course à laquelle tu m'invites. J'ai fait du bien, j'ai aimé mon prochain. Dans ça, je t'aime. C'est qu'on a besoin de se rappeler ça, de courir avec persévérance. « Donc, j'ai oublié mes questions. Ah, je pense, Jonathan, je vais te donner. J'ai ma clé, par exemple, USB. J'ai prévu le coup de Linda. C'est que j'ai une clé USB. Parce que c'est trop important, les petites questions. À la fin, on est rendu là. On va conclure avec les questions. C'est que, Jonathan, tu vas pouvoir... C'est vrai qu'il y a plein d'affaires là-dessus. Là. Je ne sais pas
oui,
si
tu... Oui, je vais chercher le plus haut présent. Ah, mais on va essayer de changer la source.
On remet la... OK, tu avais changé? Non? OK, elle a changé tout seul?
Non.
Ah, c'est toi, Richard, qui as touché, là, hein? Tu t'es commis, hein?
Linda.
C'est encore Linda. Ah, on va se parler tantôt. C'est ça, si tu vas dans... Oui, je peux y aller. Ah non, c'est vrai, c'est pas l'ordi, je m'excuse, j'ai dit... Si tu cherches PowerPoint là, du 15 septembre 2024, je pense que tu vas arriver dessus. Je pense. C'est juste des questions un peu pour conclure, frères et sœurs. Sur... Peut-être aussi, là, ça, tout est mêlé. Tout est mêlé. C'est vrai. Le 15, c'est... Ben, je peux regarder là, gars. Je vais essayer d'aller voir. Parce que je ne sais pas, quand on le met là, on dirait que c'est tout mêlé. C'est même pas en ordre, hein?
Non, mais par, oui, ici, c'est ça, le dernier modifié, c'est ça.
Le 8 septembre...
11.
OK, le 11. OK, oui. Mais allez voir ça, le 11. Ça, OK, mais allez voir le 11.
Oui.
OK, après ça... Ici, non, c'est pas là... C'est, on a-tu des questions? Ah, ici. Écoute, il y a... Oui, question à poser, okay, c'est bon.
Okay.
Parfait. On garde ça là. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Hein, c'est ça, un peu, là, pendant que Jonathan met ça, faut-tu que je retouche à quelque chose, Jonathan? OK. Bon, question à se poser. C'est juste, hein, tantôt, le titre, c'est « Ne soyons pas stupides ». Ça ferait référence à quoi, ça, vous pensez? Linda, t'es la première à répondre. Hein? Ça serait en rapport avec rejeter un fardeau. Hein? On est stupide de transporter des fardeaux, dans le fond. Hein? Non, mais c'est vrai, on se met des charges sur nous pour rien au lieu d'être libre. Ne soyons pas stupides, puis l'autre, bien, nous ne trichons pas. Ça fait référence à quoi? Bien, tricher, c'est pas beau. Hein? C'est pas beau pêcher. C'est pêcher, en fait. Ça fait qu'aujourd'hui, on est appelé, dans le fond, c'est ça, Seigneur, tu m'invites, tu dis, je suis libre, c'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Aide-moi à voir là, des choses dans ma vie qui fait que je ne vis pas cette liberté-là. Je suis encore sous la servitude de quelque chose. Je fais des choses en pensant que c'est bon. Puis, comme on dit, là, on n'est pas là pour vous dire, « Ah, oh, le pasteur, lisez pas la Bible, là, tout ça. » Mais est-ce que je fais des choses, dans le fond, dans le but de plaire à Dieu? Puis ça, c'est toujours le danger. Notre cœur n'est pas là. Ça devient une routine, une habitude. Fait que le Seigneur, il veut enlever ça parce que ça nous ralentit. C'est pas bon. Puis l'autre chose, bien, c'est ça. On ne triche pas, bien, tricher, bien, c'est pas beau. Une claque sur les doigts. Ouais. Pour ceux qui sont plus jeunes, qui allaient à l'école. Là. Mais c'est ça. Donc, on a des questions qu'on peut se poser. Donc, Jonathan, je ne sais pas là, si tu es capable de les mettre ou ils ne sont pas là. Ouais, hein? Il y a un bug. Non, je pense que ce qui arrive, c'est que l'ordinateur est tellement vieux là-bas, puisque on... Ah, OK. Bon, en tout cas, c'est croche un peu, mais c'est correct. De? Non, l'ordinateur, c'est ça. C'est parce que, avec nos ordinateurs, des fois, quand on fait un PowerPoint, puis là, tu sais, on peut faire des petites animations, je pense que lui, il ne le fait pas. Puis là, bien, ça fait comme, tu n'as pas d'animation, puis là, ça bug, puis ça... Oui, c'est ça, hein? OK. OK. Parce que l'important à retenir, c'est ça, on à s'opposer. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Hein, le premier point, est-ce que Jésus-Christ est vraiment celui seul qui te sauve de tes péchés? Parce que dans le fond, l'Épître aux Hébreux, c'est ça. C'est mettre l'importance sur une personne. Pas pour sur des rituels religieux, qui est important parce que c'est Dieu qui avait institué tout ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, bien, on dit, Seigneur, tu m'as libéré de ça. Tu m'invites à te suivre, tu m'invites à t'aimer, à aimer mon prochain, tu m'invites à manifester l'Esprit de Dieu et non vivre par ma chair. Puis là, on pourrait prendre différentes directives aussi où ce qu'on est invité à vivre ça. Quand on vit ça, c'est ça la liberté. C'est pas dire je fais ce que je veux ou bien je fais plus rien. Non. Encore là, si on est motivé par l'amour que Dieu met dans notre cœur, bien, c'est ça qui doit nous motiver. Donc aujourd'hui, un peu, on est ici, bien, est-ce que Jésus-Christ, c'est lui qui nous sauve de nos péchés ou bien on fait des choses pour que Dieu nous accepte? Hein, anciennement, on vivait comme ça. Hein, si tu es une bonne personne, Dieu va t'accepter. Tu vas voir, fais le plus de bien possible, tu vas réussir à passer l'épreuve quand tu vas rencontrer Dieu. On a grandi dans ça. Puis des fois, on reste avec le principe de plaire en faisant des choses, plutôt que de se reposer sur ce que Dieu nous a acquis. Puis qu'on a cette liberté-là maintenant de vivre par son esprit. Donc ça, c'est important. Hein? Est-ce que Jésus-Christ, aujourd'hui, est-ce que tu es ici parce que Jésus-Christ t'a sauvé ou bien tu es ici en pensant qu'en étant ici, Dieu va te donner quelque chose? Oui, on s'attend à Dieu, mais pour notre salut, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Seul lui nous sauve. Oui, on est appelé maintenant à faire des bonnes œuvres, c'est vrai, mais ces œuvres-là ne nous sauvent pas. Ces œuvres-là, quand on les fait, on est en train de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Deuxième point, est-ce que tu es plus satisfait de ce que tu fais pour Dieu, comme je viens de dire, par la pratique de coutumes peut-être religieuses qui te donnent un sentiment d'être correct avec lui et même de lui plaire que de trouver ta satisfaction de ce que Dieu a fait pour toi par la personne de Jésus-Christ? Troisième question, est-il possible que nous accordions en réalité un rôle secondaire à nos relations? Hein, on est plus centré sur, par exemple, la connaissance est importante, mais la connaissance vraie devrait nous emmener dans l'action, avoir une foi agissante par l'amour, comme on a vu dans Galates. Donc, les relations, ce n'est pas très important. Hein? Ça veut dire relation, c'est aimer Dieu, son prochain. Dès que le reste de notre vie est en règle. Donc, quatrième question aussi, suis-je conscient de ma satisfaction, de ma routine, de mon indifférence peut-être, et comment cela m'amène à pécher? Donc, l'auteur aujourd'hui, frères et sœurs, veut nous encourager, veut pas qu'on sombre là-dedans parce qu'il sait qu'on sombre. Les autres, ils avaient sombré aussi d'une manière ou d'une autre. Le péché les environnait comme le péché nous environne aujourd'hui. Il faut être alerte à ça, puis il faut peut-être le détecter dans des choses, des fois, qui sont subtiles, qu'on voit pas. Puis qu'on se contente aussi de dire, « Ah, bien, regarde les 10 commandements, par exemple, là, je regarde ça, je fais rien de mal là-dedans. Donc, je suis correct. Mais en même temps, peut-être que je n'aime pas du tout là, aujourd'hui. » Puis ça, c'est notre défi aujourd'hui, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Donc, c'est des questions à se poser. Comme je dis, pas pour se fouetter, mais s'encourager à courir avec persévérance. S'encourager les uns les autres, en comprenant qu'on vit toute la même affaire. On est confronté à ça. C'est pour ça que, me semble, les meilleures personnes à qui qu'on peut parler, c'est entre nous, qu'on vit cette difficulté-là. On a de la misère avec telle affaire. Puis d'avoir un accueil, une écoute pour ça. Parce que je vis la même affaire, moi aussi. On vit les mêmes choses. Mais en même temps, bien, on sait que Chacun de nous, quelque part, on, selon notre position dans la course, on n'est pas tous à la même place. Mais on n'est pas appelé à être à la même place, chacun de nous, là. Parce qu'on a tout un départ quelque part. On ne peut pas être à la même place parce qu'on n'a pas commencé à la même place. Mais on s'en va vers le Seigneur, on s'en va vers lui. Donc, frères et sœurs, bien, on va se courber, on va prier. Puis, je ne sais pas, Robert, je pense qu'il y avait peut-être un chant. C'est sûr qu'il est déjà 11h30. Je me dis toujours, je ne veux pas enseigner trop longtemps, puis des fois, ça dépasse le temps. Ça fait que je m'excuse de prendre, d'avoir pris plus de temps. Voyez-vous, ça, c'est quelque chose que je dois me discipliner aussi. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Tu prépares quelque chose, tu dis, ah, possiblement, ça va prendre ce temps-là. Finalement, ça dépasse le temps. Ça fait que c'est pas une excuse, mais on travaille de mieux en mieux. On veut finir plus tôt, ou en tout cas, avoir le temps de tout faire nos affaires. Ça fait qu'on va laisser faire les chants aujourd'hui, tout ça. Je vais prier. Puis si après ça, vous avez des choses, vous aimeriez qu'on prie pour vous autres, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Ça fait qu'on va prier. Hein? Seigneur, merci pour ce temps encore ce matin.